Commençons par la prière. Seigneur notre Dieu, comme à notre habitude, nous te remercions parce que tu nous as déjà parlé. Eh bien, merci pour ta parole, merci pour ton message, merci pour la communion fraternelle, merci pour tout ce que nous avons partagé. Tu nous montres encore une fois que l'Église est vivante et c'est ainsi que l'Église doit vivre. Merci parce que nous partageons nos joies et nos peines et devant toi nous nous confessons et nous implorons ta présence, que tu guides notre vie, notre marche, notre relation, notre communion les uns avec les autres. Que tout soit conduit dans la paix et dans l'amour et je te remercie pour cela. Je remets entre tes mains ce message modeste que je mets devant toi, qui s'adresse d'abord à l'orateur, à moi-même, avant qu'il s'adresse à mes frères et sœurs. Et je te prie, Seigneur, que tout soit pris dans la paix et dans l'amour, dans la communion fraternelle, pour l'avancement de notre communauté, en s'appuyant sur ta parole. Parce que ta parole est tranchante, des fois elle ne nous fait pas plaisir, elle ne me fait pas plaisir, mais Seigneur, souvent, toujours, c'est une lumière qui nous éclaire. Merci. Et que ta volonté se fasse. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui fait suite à nos échanges mardi et vendredi. Et les vendredis, donc, cette semaine. Et c'était, la question, c'était, oui, donc, où allons-nous, etc. Après mort, on va régner avec le Seigneur. Il y avait tellement de choses grandes dites que nous nous sommes réjouis cette semaine. Mais oui, ce qui nous attend, parce qu'on a un clin d'œil. Parce que, comme je dis, on peut dormir, ne pas se réveiller. Mais se réveiller où? Oui. Moi, je me pose la question. Peut-être plus je prends de l'âge, plus encore ça a un sens, certainement. L'âge aussi, ça joue un rôle. Mais il ne faut pas le négliger. Je peux dormir, ne pas me réveiller. Me réveiller où? Et ça, on doit se poser tous la question. Si vous êtes sûr que quand vous dormez, vous êtes sûr de vous réveiller, eh bien, je dis, ce n'est pas mon cas. Voilà. Bien. Eh bien, c'était cette lecture qu'on a faite avec notre frère Alain et ce qui nous attend et cet appel, ce grand appel auquel Dieu nous appelle. Vous vous rendez compte? Il nous appelle à régner avec lui. Mais on ne se rend pas compte. Il nous appelle à régner avec lui. C'est-à-dire sur une nouvelle terre, un nouveau ciel. Ça veut dire pour l'éternité, nous continuerons à connaître Dieu, à l'adorer, à le louer. Et la Bible nous dit, on n'aura même pas besoin de lumière. Parce que Dieu est lumière. Il n'y aura pas de soleil. Il n'y aura pas parce que Dieu est lumière. En fait, tout ce que nous connaissons, nous, d'extraordinaire, va s'effacer pour quelque chose encore de plus extraordinaire. C'est Dieu lui-même qui sera présent. On le verra face à face. Et nous sommes appelés à cela. Mais pour cette rencontre finale qui durera pour l'éternité, donc le mot durée, même l'expression durée, ça n'a pas de sens, parce qu'il n'y a plus de temps, eh bien, on ne rentre pas comme ça. Ceux qui vous disent, on rentre comme ça, je vous assure, moi je les traite de menteurs. Non, on ne rentre pas comme ça. Dieu nous prépare. Dieu prépare son Église. Et toute la Bible, elle parle de la préparation de l'Église. Et il y a un prix à payer. C'est une transformation qui se fait en nous pour qu'on soit aptes. Quand on arrive, hop, il y a le cachet, moi vous êtes aptes, rentrez. Vous, non, vous êtes aptes, dehors. Mais j'ai fait tout ça pour toi Seigneur. Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut faire très attention. Et un passage dans la Bible, tout petit, qui m'a interpellé, je vous l'ai lu tout à l'heure, et je vous le relis encore une fois, Marc chapitre 3, versets 13 et 14. Deux petits versets, je vous lis. Marc 3, 13, 14. « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, ils vinrent auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. » Et ce qui m'a parlé, c'est pas pour les envoyer prêcher, c'est avant, pour les avoir avec lui. Et souvent, on a tendance à oublier pour les avoir avec lui. Avant d'appeler prêcher ou pas, il ne nous appelle pas tous à prêcher. Autre chose. Il nous appelle à être avec lui. Voilà à quoi il nous appelle dans notre monde là, d'aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à être avec lui. Si ce message s'adresse à des disciples bien spécifiques, chargés de propager la bonne nouvelle, et emmener des personnes à Christ, il faut savoir que nous, en tant que simples chrétiens ordinaires, comme notre petite communauté au Creusot, nous sommes appelés aussi au ministère du témoignage. Un témoignage qu'il ne faut pas réduire à des paroles d'évangélisation, à des savoirs intellectuels, à une formation universitaire, mais en un témoignage de vie. Chaque chrétien est appelé à un témoignage de vie. C'est le ministère de chacun de nous, témoigner par notre vie au monde de la vie que le Seigneur a mis en nous. Et cette vie ne peut pas être cachée, elle veut se propager. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'en tant que chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes destinés à assaisonner, à éclairer le monde et l'environnement dans lequel Dieu nous place. C'est-à-dire dans sa famille, dans son travail, dans son voisinage, dans son quartier, dans sa ville, etc. Il ne faut pas réduire la vie chrétienne à une certaine assiduité au culte le dimanche. C'est pas parce que je viens le dimanche que ça y est, c'est garanti. Ou à la proclamation par la bouche que nous sommes chrétiens dans un pays où nous ne risquons rien à cause de notre foi. Je me pose la question, si on était dans un pays où nous risquons notre foi, est-ce qu'on proclamerait facilement notre foi? Être chrétien, c'est recevoir la bonne nouvelle et laisser cette bonne nouvelle nous transformer pour devenir des témoins vivants là où Dieu nous met. Je dis des choses banales. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu d'une manière simple à des chrétiens qui ne savaient ni lire ni écrire. Et pour que nous consentons à laisser l'Esprit de Dieu nous transformer, il faut qu'on ait une vision claire. Est-ce que notre Église, notre petite communauté, a une vision claire? Pourquoi nous sommes chrétiens? Je me pose cette question. Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi Dieu se casse la tête à faire de nous ses disciples jusqu'à faire payer le prix par la mort de son propre Fils unique sur une croix? Est-ce qu'il l'a fait pour que je continue à vivre ma vie de péché? À quoi ça sert? Payer de tels prix pour des chrétiens qui réduisent la foi chrétienne à une simple rencontre le dimanche matin, peut-être? Ça ne me semble pas cohérent. Nous sommes appelés à recevoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle est grande. Elle est énorme. Il n'y a même pas de mots pour la mesurer. Et pour un objectif, celui de nous transformer pour devenir des pierres vivantes, comme la parole le dit. Nous sommes des pierres vivantes, là où Dieu nous met. Devenir des pierres vivantes, c'est aussi le chemin de l'éternité. En nous rendant d'une manière progressive, conforme à l'image de son cher Fils. C'est encore une fois, je ne fais que relire la parole de Dieu. Nous sommes appelés à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est la vision que le Père a pour chacun de nous en tant que chrétien. Quel haut et noble appel. Je vais vous lire une petite remarque qui vient d'un homme de Dieu et qui, s'adressant aux chrétiens traditionnels, leur dit. Voilà ce qu'il leur dit. Je suis stupéfait et attristé par le nombre de chrétiens qui n'ont aucun but, aucun objectif, aucune vision qui les habite, aucune motivation autre que d'attendre le prochain culte. Nous devons nous affliger et pleurer en constatant cela. Parfois, je voudrais juste aller vers ces chers croyants, les prendre par les épaules et leur donner une bonne secousse. Réveillez-vous, vous qui dormez, et le Christ vous donnera la lumière. Levez-vous et accomplissez votre destin. Il y a un but, et Paul l'appelle le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'ai lu ces paroles de cet homme de Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à survivre, mais à vivre la vie chrétienne telle que Dieu la veut pour chacun de nous. L'Église primitive, nous n'avons pas à l'envier, la parole de Dieu est la même, nous pouvons vivre cela aujourd'hui. Et ça dépend de nous. Quelqu'un a dit, notre présent conditionne notre futur dans l'éternité qui nous attend. Je trouve que c'est une des paroles responsables et aussi sages. Ne croyons pas au mensonge qui nous fait croire que le plus dur est fait. Ne croyons pas qu'il suffit de recevoir la bonne nouvelle et nous sommes sauvés et promis pour l'éternité. Rappelons-nous des paraboles des vierges sages et vierges folles. Rappelons-nous de la parabole du semeur. Rappelons-nous de la parabole du festin des noces, du roi qui invite pour ses noces. Rappelons-nous des paroles du Seigneur disant qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Rappelons-nous qu'au temps de Noé et du déluge, une petite poignée de personnes a été sauvée du déluge. Rappelons-nous que bien que le peuple hébreu ait été appelé à la liberté, tous n'ont pas atteint la terre promise. Rappelons-nous des paroles du début du livre de l'Apocalypse, où il est question du vainqueur au singulier. Revenons maintenant à notre passage. de Marc 3, versets 13 et 14. Il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. J'aime la manière dont le Seigneur Jésus a choisi ses disciples. Et l'explication quant au pourquoi de son choix. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Leur envoi pour prêcher dépendait du temps passé avec le Seigneur. Je le répète. Leur envoi pour prêcher dépendait du temps passé avec le Seigneur. La prédication n'était que facultative, mais être avec lui était l'objectif premier. En passant simplement du temps avec le Seigneur, ils auraient quelque chose à dire quand ils seraient envoyés. Nous nous rappelons certainement que Jésus quittait les foules et partait dans un endroit isolé, à la montagne, pour communier avec le Père. Il va de soi que si Jésus devait être avec le Père, combien plus cela doit l'être pour nous, faibles créatures, faibles pécheurs que nous sommes. La parole de Dieu nous montre le chemin de la délivrance et de la vie. Ce chemin est le Christ lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si nous sommes abreuvés du Christ, si nous sommes nourris du Christ, et si nous laissons le Seigneur par son esprit nous interpeller sans murmure, dans un esprit de confession et de repentance, nous expérimenterons ce qu'est la vie dans l'esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous apprend d'une manière claire. Il suffit juste de lire sa Bible. Comment pouvons-nous dire si nous sommes conduits par l'esprit? C'est une question légitime. Nous devons simplement observer si la vie se manifeste en nous. Parce que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. La vie coule en dehors de notre être le plus profond. Et si le Christ devient de plus en plus notre priorité, nous saurons que notre vie est de plus en plus sous le contrôle de l'esprit, qui contrôle la vie de notre chair. Et nous découvrirons avec joie et allégresse qu'en tant que chrétiens, nous avons un objectif céleste qui nous détache petit à petit des tracas quotidiens de ce monde. Découvrir cet objectif nous emmènera tout naturellement à témoigner en emmenant d'autres personnes à Christ et non l'inverse. Chercher à emmener Christ, c'est tout simplement chercher le Seigneur. Et le Seigneur emmènera les personnes. Donc chercher à emmener des personnes à Christ signifie que nous avons conscience de notre propre objectif qui fait de nous des disciples fidèles, obéissant à notre Seigneur Jésus-Christ, qui de surcroît se plaît en nous et qui témoigne à travers nous. Ce n'est pas nous qui témoignons aux autres, c'est Christ qui doit témoigner à travers nous. Avant d'envoyer ses disciples prêcher et évangéliser, le Seigneur leur a fait part de son désir profond, du cœur, par amour, de les avoir avec lui. Nous avons peut-être tendance à l'oublier. Nous voulons servir le Seigneur en évangélisant, mais on oublie que son désir premier, c'est tout simplement de nous garder auprès de lui. Profitons de ces instants. Quand nous entendons l'expression « emmener les personnes à Christ », nous pouvons penser aux évangélisations par les mots, par des tracts, par la distribution des évangiles, par des réunions évangéliques, par des campagnes missionnaires. Mais l'objectif premier de notre Créateur est de nous emmener à Christ. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais tout le temps. Chaque jour, heure après heure, minute après minute. Pour que nous soyons centrés et concentrés sur et dans le Christ. Et ainsi, Christ va témoigner aux autres. Mes frères et sœurs, je m'interpelle moi-même comme j'interpelle notre Église. Si nous voulons faire pour le Seigneur, alors apprenons d'abord à nous approcher de lui de plus en plus. Cherchons-le à le connaître, car il cherche à se faire connaître de nous. Et la parole nous le rappelle à chaque fois, il cherche à nous connaître. Passons du temps avec lui et il nous fera entrer dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vous invite à lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous souhaitons emmener des personnes à Christ, alors nous devons apprendre à nous emmener nous-mêmes à Christ dans une communion active et quotidienne. Et pour suivre le Seigneur, il faut veiller à ne pas laisser sa chair prendre le dessus dans notre vie. L'apôtre Paul a toujours cherché à surveiller sa chair pour qu'elle ne se laisse pas se mettre en avant. Comment ? En cherchant le Seigneur régulièrement. On revient toujours à la même chose. Chercher le Seigneur régulièrement et constamment, quotidiennement, dès notre réveil, pendant la journée et avant de dormir, afin que la chair ne cherche pas à ressusciter pour prendre la place du Seigneur. L'apôtre Paul, il allait même jusqu'au point de dire, je vous lis, « Je traite durement mon cœur, mon corps. » Voilà l'apôtre Paul ce qu'il dit. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Nous sommes faibles. Si l'apôtre Paul est faible, que pourront dire de nous ? Tous les chrétiens ont un ministère commun, celui de témoigner du Christ à travers leur vie. Je le répète, chaque chrétien a un ministère, celui de témoigner du Christ à travers sa propre vie. Dieu ne nous appelle pas exclusivement et obligatoirement à témoigner de lui par la parole. Il y en a qui n'ont pas ce don. Peu importe. Dieu nous appelle par contre, sans concession, à témoigner de lui par notre vie. Nous avons reçu la vie avec et en Christ. Cette vie ne cherche qu'une chose, témoigner de Christ au monde. Par conséquent, il est clair que notre témoignage dépend de notre relation et de notre degré de communion avec le Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution. Je le répète, notre témoignage dépend de notre relation, de notre degré de communion avec le Seigneur. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Il monta ensuite sur la montagne. Le Seigneur ne cesse de monter sur la montagne pour rencontrer son Père, pour développer et approfondir et nourrir sa communion avec le Père. Le Seigneur donne toujours l'exemple. Si nous avons des hésitations, des questions, regardons le cheminement du Seigneur et nous avons la réponse. C'est dans cette communion permanente que le Fils avec le Père, que le Seigneur tire toutes ses sources et qu'il transmet aux disciples. C'est aussi simple que ça. Mes frères et sœurs, est-ce que cette parole nous parle ? Est-ce qu'elle sonne dans notre cœur comme un appel du Seigneur de nous avoir avec lui quotidiennement et constamment ? Est-ce que ce matin, quand on sort, on dit « Le Seigneur m'appelle, veut que je sois avec lui constamment. » Dès maintenant, je vais le prier plus souvent. Dès maintenant, je me lève et je commence par lui. Je dors avec lui. La journée, je pense à lui. Si nous avons l'impression d'avoir un vide, et souvent, j'ai eu ce vide. Si nous avons l'impression d'avoir un vide en nous, malgré notre statut de chrétien, si on a l'impression que rien ne va dans notre relation avec le Seigneur, alors peut-être que le problème vient tout simplement de nous. Pourquoi chercher loin ? Peut-être que malgré l'appel permanent du Seigneur, nous nous bouchons les oreilles en négligeant son appel d'être avec lui, voire nous trouvons des prétextes. Voici ce que le Seigneur a dit dans l'Apocalypse. Et en s'adressant aux chrétiens, il y en a qui pensent qu'il s'adresse au monde, qu'ils ne sont pas chrétiens. Il s'adresse aux chrétiens, voilà ce qu'il dit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et c'est une expression permanente, tous les jours, tout l'instant, il nous dit la même chose. Si nous ouvrons notre cœur au Seigneur pour accepter de développer une communion permanente et progressive avec lui, alors nous pourrons être considérés comme des vainqueurs de l'Apocalypse. On ne peut vaincre que par le Seigneur. On ne peut vaincre qu'en développant une communion permanente avec le Seigneur. Et cette victoire n'est rien d'autre que la victoire de la lumière sur les ténèbres de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le chemin de la délivrance, c'est le chemin de la sanctification. Et nous savons que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et si vous doutez de ce que je vous dis, mes frères et sœurs, je vous invite à lire la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Les temps sont durs, la venue du Seigneur est proche, alors rachetons le temps comme l'a demandé l'apôtre Paul aux Éphésiens. Voilà ce qu'il a dit aux Éphésiens. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si le message est individuel, il s'adresse à chacun de nous, il est aussi et surtout collectif, parce qu'il s'adresse à l'Église. En désirant avoir les 12 disciples qui représentent l'Église, le Seigneur est en train de parler à l'Église, et il veut avoir avec lui cette Église. Nous devons avoir le désir mutuel de nous retrouver pour développer et approfondir notre communion avec le Seigneur. Que ce soit de visu ou en distance, nous soyons dans la communion, dans la prière, la louange, la lecture et l'étude de sa parole. C'est se mentir, de dire être chrétien et je fais ce que je veux. Le Seigneur nous appelle à avancer ensemble en tant que petite communauté. Pour que tous les membres de l'Église avancent vers la même direction. Nous voulons être ensemble dans l'éternité. Que personne ne soit laissé pour compte au bord du chemin. Que toute l'Église profite de la vie que le Seigneur veut partager avec chacun de nous. C'est ensemble que nous voulons être au ciel. Soyons responsables les uns des autres. Car l'avancement spirituel de l'Église, et donc de tous les frères et sœurs de notre Église, dépend de l'avancement spirituel de chacun de nous. La santé spirituelle de mon frère et de ma sœur dépend de ma santé spirituelle. Et si je me dis le matin, je n'ai rien à cirer de la vie chrétienne, je suis en train de rendre malade mon frère et ma sœur. Voulez-vous me rendre malade? Voulez-vous que je vous rende malade? La vie chrétienne est une responsabilité. On est dépendant les uns des autres en Christ, parce que nous sommes dans le même corps. Ensemble, nous formons le corps du Seigneur. Si je vacille dans ma vie spirituelle, j'affecte tout le corps en le faisant souffrir. Donc, je vous fais souffrir. Avons-nous conscience de cela, mes frères et sœurs? Nous avons tort de croire qu'en nous péchant, sans repentance par la suite, qui s'ensuit, rien ne se passe. Tout se passe au niveau spirituel. Nous affectons l'Église et nous affectons le Seigneur. Car ce que quand nous péchons, ne péchons pas contre les hommes, nous péchons contre Dieu et contre son Fils. Et donc, nous affectons tout le corps. C'est une responsabilité individuelle que, hélas, j'ai l'impression qu'en Occident, ne réalise pas. On est tellement dans une pensée individuelle, au niveau économique, tout ce qu'on veut, qu'on dit, moi tout seul, non, moi j'affecte le corps. Et je fais du tort au corps. Le corps du Seigneur. Sommes-nous conscients de la gravité de la situation? C'est ça, la conviction du péché. Rappelons-nous que nous avons pris le même pain et la même coupe tout à l'heure. On l'a pris, ensemble. C'est le même pain, la même coupe. On est en communion dans le corps. C'est un engagement. Et je l'ai lu, 1 Corinthiens chapitre 11. C'est un engagement de nous examiner devant Dieu et devant son Fils. Et nous examiner, c'est un engagement envers le corps qui est l'Église. Nous confessons de notre bouche avant de prendre la bonne. Je m'examine devant toi, Seigneur. Mais si quelque chose qui ne va pas devant moi, fais ce que tu veux. La suite, c'était marqué, il y a même des morts et des malades. Ne prenons pas les choses à la légère. Moi, j'ai peur si je fais ça à la légère. C'est un engagement de ne pas affecter et de ne pas faire mal au Seigneur. Et donc, de ne pas affecter et faire mal à son frère, à sa sœur. Dire cela n'est pas le culpabiliser. Dire cela, ce n'est pas le culpabiliser. On peut me rétorquer, mais arrêtez de le culpabiliser, mais ce n'est pas bien de dire ça dans l'Église. Mais ne pas le dire, c'est se mentir. Ne pas le dire, c'est que j'efface des passages dans la Bible. Ne pas le dire, c'est fermer les yeux sur l'importance du corps, qui est celui du Seigneur Jésus-Christ. Et le dire, c'est aider mon frère et ma sœur ne pas se perdre. C'est justement, c'est dans la repentance et la confession que nous pouvons repartir. Et je sais que ce message est entendu par d'autres. Donc il s'adresse à notre petite communauté, mais il s'adresse aussi à tous ceux, peut-être, qui vont entendre ce message. Et si c'est notre cas, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un Seigneur d'espoir et d'espérance. Car avec lui, il n'y a pas de fatalité. Il se tient toujours à la porte et il frappe et il dit, je n'attends qu'une chose, vous ouvrez votre corps, votre cœur et je rentre. Il n'y a pas de fatalité. Il suffit de venir à lui avec un cœur repentant, confessant nos péchés et désireux de le connaître. Alors, il nous dira, depuis toujours, je vais me faire connaître à vous. Je n'arrête pas de le dire. Mais il n'est pas trop tard, maintenant vous l'avez réalisé. Et bien tant mieux. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle quotidiennement à venir à lui avec un cœur sincère, un cœur désireux de développer une communion avec lui, dans l'amour et dans la paix. Si nous ne l'avons pas déjà fait, il est urgent de répondre à cet appel. Que Dieu nous aide. Amen.